Voilà, bonne fête de l'Ascension à tout le monde, à ceux qui nous écoutent. Et alors ce soir, justement, c'est assez providentiel que nous ayons à faire cours, disons, mais surtout à faire un cours de liturgie, puisque c'est le sixième cours, je crois, déjà, de la propédeutique pour la liturgie, aujourd'hui 21 mai. Et en fait, il y a un rapport étroit entre la fête de l'Ascension et la liturgie, la prière chrétienne. Ce n'est pas rien, disons, que de pouvoir, en ce moment, donc, cette fin de cette journée de l'Ascension, en tout cas ce temps de l'Ascension, parler de la liturgie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit dans les Actes des Apôtres et à la fin du Saint-Évangile, d'ailleurs également, que les disciples, en fait, ont été encouragés, disons, à la prière communautaire et à la prière sous ses formes dans Jérusalem, à partir de ce moment de l'Ascension. Donc c'est le Christ a donné ce commandement de la prière, et en quelque sorte, la communauté chrétienne s'est engagée dans la prière liturgique, la prière communautaire sous une forme ou sous une autre, au fond surtout après le retrait du Christ. Je dis retrait pour pas dire départ, parce que le Christ en même temps a dit qu'il demeure toujours avec nous. Donc c'est un Christ effacé, un Christ rétracté, retiré sur lui-même, retiré auprès du Père, entré dans l'invisible et dans l'invisiblement présent. C'est ce Christ-là qui nous parle et que l'on prie, avec lequel on prie, et c'est avec ce Christ-là, disons, que l'Église s'est constituée. Alors bien sûr, elle ne s'est pas constituée totalement tant qu'il n'y a pas eu la grande descente du Saint-Esprit, ben, ça c'est d'accord, mais disons que je crois que le temps, c'est 10 jours qui séparent l'Ascension de la Pentecôte, en tout cas actuellement dans notre usage liturgique, parce qu'il faut savoir qu'il y a une époque où les deux fêtes étaient célébrées en même temps, quand même, actuellement, donc il y a cette distinction, et cette distinction correspond à une réalité qui est décrite dans les Actes des Apôtres, qui est cet état de sentiment d'orphelinat, en quelque sorte, hein, que les apôtres et les disciples ont ressenti après le retrait et l'élévation, en même temps, et l'exaltation du Christ. Ça ressort des textes liturgiques que nous avons entendus hier soir, cette nuit et ce matin. Les anges disent aux disciples, aux apôtres, ben pourquoi est-ce que vous restez à regarder le ciel? Il va revenir comme il vous a quitté, il va revenir. Et la communauté chrétienne s'est constituée en bonne partie de cette façon-là, dans un émerveillement devant l'exaltation du Christ. Elle s'est constituée par la bénédiction qu'il a donnée à l'Église à ce moment-là, mais il s'était levé, si je ne me trompe pas, il s'était levé en bénissant les disciples et les apôtres, et la communauté s'est édifiée dans l'attente de son retour. Alors, c'est assez complexe. Est-ce que ça voulait dire le retour, c'est-à-dire sa présence par le Saint-Esprit? Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça qui soit exprimé à ce moment-là. Il s'agit plutôt de la dimension eschatologique de la prière chrétienne, qui est très très importante, qui est au fond fondamentale, primitive, si je veux dire, en tout cas au fond fondatrice, et que le chrétien prie dans l'attente de la venue glorieuse du Christ. Donc, vous voyez, on va parler de la prière, après parler de la prière liturgique, dans ce moment-là, ce moment de l'Ascension, de l'exaltation du Christ à la droite du Père, ce n'est pas rien. Je reste très sensible, disons, au moment dans lequel on parle, on doit prendre la parole. Alors j'ai prévu, comme ça a été annoncé, je crois, programme de parler ce soir des petites heures. Alors ça paraît un peu modeste comme sujet, parce qu'on dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas de la divine liturgie ? Mais bon, ça viendra. Mais parce que en fait, on parle souvent de la divine liturgie tout de même. C'est loin d'être un sujet rare. En revanche, c'est vrai que les autres offices, vêpres, matines, on en parle moins souvent. Donc, je suis content d'avoir pu consacrer du temps à l'office de vêpres et à l'office de matines. Et on parle très peu, finalement, des petites heures. Donc, je pense que c'est important d'en parler, mais je pense que c'est intéressant que les petites heures nous connectent, nous relient à la communauté chrétienne, à la première communauté chrétienne. Quand on dit primitif, je ne sais pas pourquoi, c'est un sens péjoratif. Ce n'est pas un mot très intéressant à penser. Les primitifs, c'est pour quelque chose qui ne serait pas vraiment développé, comme si l'Église première n'était pas plénière. C'est tout à fait inexact. L'Église primitive, si vous voulez, c'est toute l'Église déjà, en tout cas à partir de la Pentecôte. L'Église primitive est totale, absolument catholique. Il n'y a absolument rien qui manque à la plénitude de l'Église. Donc c'est pour ça que le terme de primitif, si on l'emploie, ne doit pas être pris du tout dans un sens péjoratif, avec cette conception de progrès qui sont d'esprit moderniste, évidemment, qui ne correspond pas au sujet. Donc on va dire l'Église première, si vous voulez, l'Église primordiale, la première communauté chrétienne, parce qu'il y a quand même chronologiquement une date, il y a 2000 ans, disons, des chrétiens, des hommes et des femmes se sont réunis par leur foi et leur amour pour le Christ. Bon. Et donc on va parler des petites heures, et je crois que je vais arriver à expliquer justement que ces petits offices, pas très bien connus dans les paroisses, en tout cas, quelquefois un peu traités à la légère, peut-être, bon. En réalité, ont une importance très grande parce qu'ils nous relient à la communauté chrétienne dans son origine, dans son jaillissement ancien. Alors j'ai proposé toute une bibliographie assez peut-être plus développée même que pour l'office de matine et de vêpres, et que vous trouverez sur le site. Je ne veux pas y revenir trop. Bon, j'ai cité, vous verrez les références précises de tout cela, le livre de prière des éditions Apostolia, publié par notre métropole, page 239, les deux psautiers que je trouve vraiment intéressants, celui du monastère de Canto, qui est celui préparé par le père Placide, plus anciennement, le grand livre d'heures de la diaconie apostolique, le livre des heures de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale, publié en 2000, et surtout, je le cite encore, le petit horologion. Je l'ai apporté encore ce soir parce que je pense l'utiliser. Ça, peut-être que j'insiste un peu là-dessus sur l'importance de cet office, de cette édition. Et puis, alors, j'ai utilisé, moi, plus spécialement pour ce soir, les ouvrages suivants. C'est le livre de Paul Evdokimov qui s'appelle La prière de l'Église d'Orient, publié en 1966 à Mulhouse. Pardon, c'est page 36-36. Je vais en lire des passages. J'ai utilisé des livres plus anciens encore, des livres de Don Cabrol, qui est un bénédictin liturgiste éminent, un livre qui s'appelle Le livre de la prière antique, qui a été publié en 1913, et donc page 205, il y a tout un chapitre qui s'appelle La journée chrétienne. Et le même écrivain, le même savant bénédictin, saint bénédictin, a écrit un livre qui s'appelle La prière des premiers chrétiens, que j'ai apporté ici, qui a été publié en 1929, où il reprend un petit peu les mêmes éléments. Et puis alors il y a des ouvrages aussi qu'on peut consulter. Moi je n'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais enfin je sais qu'ils sont des références. En particulier le dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, je crois qu'il est consultable sur Internet. Je pense qu'on peut, en cherchant, le trouver, ou en tout cas il se trouve en bibliothèque, bien entendu. C'est un ouvrage très, 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 très fondamental pour l'histoire de la liturgie. Alors, encore que, comme je vous l'ai dit, je ne me présente pas comme un historien de la liturgie, mais plutôt comme un théologien, si vous voulez, pastoral, disons, de la liturgie. Et puis, alors, j'ai utilisé, comme je l'ai déjà utilisé dans d'autres cours, je crois, le livre de Louis Duchesne, Monseigneur Louis Duchesne, qui s'appelle « Origine du culte chrétien », et c'est un livre de 1909. Alors, vous allez me dire que je vais chercher mes sources très loin, mais parce que si vous voulez, il est incontestable qu'il y a eu des travaux très importants réalisés dans le cadre de l'Église catholique depuis le début du siècle. C'était le début de ce qu'on a appelé le mouvement liturgique. Ça a beaucoup, beaucoup apporté. Ça n'a peut-être pas porté dans l'Église catholique les fruits que les orthodoxes que nous sommes aimeraient y voir. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Pourquoi est-ce que finalement ce mouvement liturgique a donné une église très moderniste finalement, alors que c'était un mouvement qui était un mouvement de grand intérêt pour la tradition liturgique chrétienne. Enfin bon, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Toujours est-il que le livre de Mgr Luchesne qui s'appelle « L'origine du culte chrétien » a, page 453, je ne l'ai pas apporté avec moi, mais page 453, tout un passage sur l'office divin et dans lequel il parle des heures. Donc je me suis inspiré, enfin, j'ai lu, j'ai pris des citations aussi dans ces ouvrages-là. Je ne les ai pas apportés parce que le livre, le volume que j'ai des origines du culte chrétien, il est très vieux, il est très abîmé, très fragile, et il se décompose un petit peu, le papier s'est desséché avec le temps, et je l'aurais beaucoup abîmé si je l'avais apporté. Bon, alors c'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de textes, même pour un sujet modeste comme celui des petites heures, comme on les appelle, il y a tout de même des études, mais ce ne sont jamais des études très approfondies, et ce sont toujours des études qui se répètent un peu les unes les autres, hein, pour ne pas tout de même, être modeste. Hein. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Alors, il s'agit d'offices qu'on appelle les offices des heures, hein, on dit aussi heures canoniales, c'est-à-dire des heures qui sont prescrites, qui sont formellement fixé ou établi et organisé avec un canon, c'est-à-dire effectivement une règle de prière, hein, ça c'est important, ce sont des prières et qui correspondent à une règle organisée et fournie par l'Église. Bon, et il faut savoir que ces heures se trouvent dans toutes les traditions liturgiques parce que justement, comme elles viennent d'un temps très ancien, finalement, elles ont été conservées dans les différentes traditions liturgiques. Vous savez qu'il y a une année, j'aimerais faire ça un peu, me parler des différentes traditions liturgiques qui existent dans le patrimoine chrétien. Les orthodoxes que vous êtes, vous savez certainement qu'il n'y a pas que le rite byzantino-slave comme rite chrétien traditionnel. Il se trouve qu'il s'est imposé à une certaine époque, ça on peut expliquer cela, mais qu'il y a eu d'autres traditions liturgiques, donc serait-ce qu'en Europe occidentale, il y a eu plusieurs traditions liturgiques, il n'y a pas du tout que la tradition romaine, il y a également la tradition gallo-romaine, la tradition hispanique, enfin, il y a beaucoup de traditions, l'Église ancienne était très très riche liturgiquement, ça a foisonné véritablement, et puis après ça, il faut savoir qu'à Alexandrie, on a célébré des liturgies différentes, que les liturgies selon Saint-Marc, les Syriens ont d'autres liturgies, les Coptes, les persécutés, là, les Arméniens ont également d'autres formes liturgiques. Donc ce foisonnement liturgique dont j'aimerais parler un jour, en réalité, il comporte une très très grande unité interne et en particulier ce qu'on trouve comme élément commun à toutes les traditions liturgiques, c'est la prière des heures. Alors, donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'offices liturgiques fixés, comme leur nom l'indique, à des heures successives de la nuit et du jour. En fait, on emploie l'expression office des heures plutôt pour les offices diurnes, mais l'expression serait vraie également pour l'office de matine ou l'office de minuit, évidemment. Ces offices qui sont célébrés la nuit, en fait, sont célébrés à un moment précis de la nuit et pas n'importe quand. On peut revenir. Donc l'office de vêpres également est un office des heures parce qu'il correspond à une heure précise qui est le soir, la tombée de la nuit, et de même que l'office de matine est un office matinal. Bon, en réalité, on s'aperçoit que l'idée de prière des heures est une idée qui englobe la prière chrétienne dans son ensemble, même la divine liturgie. La divine liturgie, qui dans l'Église n'était célébrée que le dimanche, c'était un office typiquement dominical, parce que c'est un office pascal. La divine liturgie, quelle qu'elle soit, que ce soit la divine liturgie selon saint Jean Chrysostome, selon saint Basile, selon saint Germain de Paris, selon saint Marc, selon je ne sais pas qui, saint Gélase, je ne sais pas, bon, La divine liturgie est un office matinal également, matinal parce qu'il correspond à l'annonce de la résurrection le matin de Pâques. Donc la divine liturgie, on pourrait la célébrer aux premières lueurs du jour. Ce serait même assez intéressant de le faire, plutôt que de célébrer comme nous célébrons à 10h du matin, 10h30, ce qui est extrêmement tard. La célébration est un peu déconnectée. Alors, ça, il faut peut-être faire une remarque ici au départ, en disant que malheureusement, pour des raisons qu'on peut regretter, on va dire, voilà, pour des raisons, et qu'on ne connaît pas toujours, ces offices des heures sont en fait célébrées d'une manière un peu décalée par rapport aux heures prévues. Le premier exemple que je donne, c'est celui de la divine liturgie, célébrée souvent très tard dans la matinée, mais ce serait vrai également pour l'office de matine, qui souvent, dans certaines églises, est célébré, par exemple, la veille au soir, à la suite des vêpres, et n'est plus un office du matin, mais en fait un office du soir très tard, quoi. Bon. Donc c'est décalé, l'office de vêpres, bon, il y a quand même des endroits où on a vu dans certains monastères bénis et saints et vénérés et vénérables des offices de vêpres célébrés vers 11h du matin ou midi. Enfin, bon. Alors moi personnellement, je me permets de suggérer que partout où on peut le faire, on célèbre les offices aux heures correspondantes. Parce que ça correspond à une expérience chrétienne, ça correspond aussi à la profondeur cosmique de la prière, et ça correspond à une certaine, comment dire, un certain état de la conscience. Je suis persuadé, on pourrait le démontrer assez facilement, je suis persuadé que notre état de conscience correspondant à l'office des vêpres est un état de conscience qui se forme quand la nuit vient, et que nous commençons à avoir l'intuition de la mort, par exemple. Et de même, notre état de conscience, correspondant à la vie des matines, est un état de conscience qui voit la vie triompher sur la mort. Mais c'est instinctif, vous voyez. Donc, il y a quelque chose d'instinctif, à la limite du conscient et de l'inconscient chez nous, et qui correspond aux différents moments de la journée. On sait, par exemple, que l'être humain est ressent une très grande angoisse vers 4h ou 5h du matin, qui est l'heure à laquelle on commence à célébrer l'office de matine. C'est très, très, très tôt, avant le lever du jour. Et on sait, on pourrait étudier, je sais pas, le rythme cardiaque des gens qui dorment, pour savoir à quelle heure de la nuit ils sont en paix ou calme, au contraire agités. Et on s'apercevrait que les moments de prière correspondent un peu à ces états. Enfin bon, là, je ne dis pas ça pour me montrer plus savant qu'un autre, mais pour plaider vraiment en faveur d'une célébration des offices aux heures prévues quand même, imprévues. C'est pas du formalisme, c'est du réalisme, c'est un peu différent. Parce que si on ne fait pas attention à ça, notre prière devient complètement déconnectée de la vie. Vous voyez? Ça, c'est. Alors, bien sûr, il y a des endroits où certains chrétiens, je ne le critique pas, si vous voulez, mais on le constate, célèbrent la messe dominicale, par exemple, le dimanche soir. Ça paraît extraordinaire tout de même. Ou bien la messe dominicale le samedi après-midi, pour des raisons pratiques, parce que ça permet aux familles de partir en week-end. Bon. Je veux bien, mais il y a quelque chose quand même qui est perdu dans le sens, pas le sens intellectuel ou rationnel ou réfléchi, mais dans le sens instinctif, existentiel de la prière. Donc ceci sont les offices correspondant à ces moments précis du temps, en fait, et ils correspondent, donc effectivement, je vais en reparler certainement, ils correspondent à ce qu'on appelle la sanctification du temps. Je pense que nous avons déjà parlé de ce thème liturgique, en fait, très important, à propos des jours, hein, des jours de la semaine, du temps de l'année, du temps liturgique. Ce serait intéressant de faire une fois un cours sur le temps liturgique, sur l'année liturgique. C'est extraordinairement important, mais ça correspond théologiquement et mystiquement et spirituellement et sacramentellement. Ça correspond à une sanctification du temps. Et c'est ce qui incombe à la responsabilité de l'être humain. Parce que quand l'être humain a été placé par Dieu dans la position de royauté au paradis, d'être le roi de la création. Il a été roi de la création, mais dans toutes ses dimensions. Il a été roi de la création dans sa dimension spatiale, évidemment. Mais il a été roi de la création aussi dans sa dimension temporelle. Le Christ lui-même reprend cela, disons, mais le Christ qui est le second Adam, si vous voulez, par l'incarnation, il reprend ce qu'on trouve chez le premier Adam, ce qui veut dire d'être le roi, le pontife et le prophète de la création dans tous ses aspects. Donc il y a quelque chose de prophétique dans la sanctification du temps, comme il y a quelque chose de royal, c'est-à-dire un sentiment de responsabilité, il y a quelque chose de profondément sacerdotal dans la sanctification du temps, parce que par cela, l'être humain, justement, consacre le temps, ou atteste que ce temps est consacré, atteste que ce temps est donné par Dieu, et il rend à Dieu le temps que Dieu lui donne. Oui. C'est quelque chose qui est absolument profond, et que nous avons besoin, en fait, de découvrir ou de redécouvrir si nous l'avons oublié. Donc, en plus des grands offices de matine et verbe dont on a déjà parlé, il existe d'autres offices, comme je le rappelle, très petits, qu'on appelle les heures ou qu'on les appelle quelquefois les petites heures. Et ce qui ne veut pas dire qu'elles soient plus courtes que d'autres, mais elles sont petites dans le sens où elles ont quand même beaucoup moins de développement que l'office de matine, par exemple, dont j'ai parlé déjà un peu rapidement. Mais quelquefois on les appelle les grandes heures ou les heures royales, j'y reviendrai j'espère, surtout quand elles sont à proximité d'une grande fête, par exemple les heures diurnes, les heures de la journée célébrées avant la fête de Noël ou avant avant la fête de Noël comme exemple, on les appelle les heures royales ou les grandes heures à ce moment-là. Elles ont quand même un caractère très développé, elles comportent des lectures de bibliques beaucoup plus importantes, et donc à ce moment-là elles méritent le titre de grandes, parce que de petites heures qu'elles sont, elles sont devenues grandes parce qu'on les a augmentées, dilatées en quelque sorte. Je vois par exemple les heures royales ou les grandes heures qui précèdent la fête de la présentation du Christ au temple. Et ce sont des offices magnifiques avec des antiennes très très développées et qui sont c'est quand même assez important. Celles-ci, on les chante et tout, ça devient vraiment des offices assez somptueux, donc ça devient des grandes heures effectivement, voilà. Bon. Et on les appelle les heures royales parce que elles ont quelque chose de souverain, elles ont une beauté, elles ont une autorité aussi par rapport au sens théologique de la fête. Elles préparent la fête de manière théologique tout à fait exceptionnelle. Et elles sont vraiment prévues, regardez le détail dans le calendrier liturgique, elles sont prévues, ces grandes heures, donc ces petites heures devenues grandes, elles sont prévues avant pratiquement toutes les grandes fêtes de l'année, je crois. Je vais vérifier. Alors, je vous rappelle quand même la désignation de ces petites heures, telles qu'on les trouve quand même au départ, l'office de prime, l'office de tierce, l'office de sexte et l'office de nonne. Et vous voyez déjà dans ces mots-là qu'il y a des indications en fait horaires. Je reviendrai prime, ça veut dire première heure, tierce, ça veut dire troisième heure quand même, sexte, sixième heure et non, neuvième heure, si on prend l'étymologie latine, évidemment. Bon, et puis, parmi les offices des heures, il y a un office qui est différent des autres, mais qui doit être quand même nommé ici, qu'on appelle l'office des typiques. J'espère que j'aurai le temps d'en parler, je ne sais pas. Qui se dit après sexte, lorsqu'on chante à matine, le répond, le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, que vous connaissez peut-être. Et également, on dit l'office des typiques, mais on le dit après l'office de nonne, quand on chante plutôt comme répond l'Alléluia, c'est-à-dire pour le carême en fait. Bon, alors il existe, et en plus, il faut que vous sachiez, si vous ne saviez pas, mais je suis là, comme on est en propédeutique, je suis là pour dire des choses basiques pour l'information de tout le monde, ou le rappel de tout le monde, il existe également ce qu'on appelle des heures intermédiaires. Alors vous allez dire, c'est extraordinaire, finalement ces heures diurnes sont très importantes. Oui, elles sont très importantes. Et les heures intermédiaires, qui sont d'origine surtout monastique, en fait se trouvent entre les heures fondamentales, par exemple les heures intermédiaires de prime, heures intermédiaires de tierce, de sexte et de nonne. Et elles se disent dans les monastères, effectivement, pendant les carèmes de Noël et des saints apôtres, et dans les périodes, en particulier les jours où on chante Alléluia à Matine, c'est-à-dire quels sont ces jours. En fait, c'est principalement mercredi et vendredi, par exemple, qui sont les jours de jeûne. Eh bien, ces jours-là, c'est Alléluia qui est chanté à Matine et non pas le répond le Seigneur est Dieu. Bon, et donc ces heures intermédiaires, commence par les bénédictions initiales ou par l'invitatoire « Venez, adorons et prosternons-nous », qui est l'invitatoire universel d'ailleurs, chrétien, qui précède généralement la récitation des psaumes. Bon, et puis, alors, il existe une heure particulière, donc un sujet extraordinaire finalement, une heure particulière qu'il ne faut pas oublier, qu'on appelle l'heure pascale, et qui est un office sur lequel je reviendrai, j'aimerais beaucoup revenir, mais qui, comme son nom l'indique, est célébré exclusivement dans le temps pascal. D'ailleurs, il n'est célébré, il dépasse jamais même, je crois, le jour de Pâques. Je ne suis pas sûr qu'on célèbre l'heure pascale, mais on pourrait le faire pendant toute la semaine radieuse, par exemple. Mais en tout cas, pas au-delà de la semaine radieuse. Et en tout cas, il est célébré dans la nuit de Pâques, éventuellement, quand on fait tous les offices. Donc voilà encore une heure particulière. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est, du point de vue théologique, du point de vue spirituel, du point de vue mystique, du point de vue sacramentel, quelque chose qui est vraiment très très fort. Vous voyez, dans la conscience chrétienne, c'est dit qu'on sanctifie le temps, mais on sanctifie le temps pas seulement globalement, mais on le sanctifie heure par heure. Et pas seulement jour par jour, mais heure par heure, minute par minute, si on pourrait. C'est-à-dire que la sensibilité chrétienne, telle qu'elle nous apparaît à travers ces offices diurnes, est une sensibilité qui cherche, ou qui a cherché dès l'origine, la prière la plus continue possible. Au fond, l'idéal chrétien a été certainement la prière continuelle, prier sans cesse, prier continuellement, suivant l'injonction de l'apôtre, suivant les injonctions du Christ aussi, qui a vraiment, le Christ a donné, on pourrait le faire ça aussi, chercher dans l'évangile tous les passages où le Christ enseigne la prière sans cesse. Le Christ dit ça: priez, priez, priez pour ne pas entrer en tentation, veillez, priez, priez, jeûnez, le jeûne et la prière. Le Christ a continuellement insisté sur l'importance de la prière. Et donc les chrétiens sont des personnes, si vous voulez, qui sont des hommes de prière, des hommes et des femmes de prière. Alors, il y a encore un office qui ne fait pas partie des petites heures exactement, parce qu'il n'est pas, en tout cas, pas un office diurne, qui est l'office des complis, auquel je consacrerai une séance particulière, parce que c'est assez riche. Et cet office des complis est célébré sous une forme ou sous une autre, petite complie ou grande complie, après l'office de vêpres, donc c'est un office du soir. Alors donc, vous voyez, ce sujet, cette réalité de la prière des heures est une réalité vraiment très 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 importante, et c'est pour ça qu'elle trouve sa place dans les livres liturgiques. Par exemple, je vois le livre du Père Placide, Petite Horologion. La Horologion, probablement que ça veut dire quelque chose qui a un rapport avec les heures, vous voyez, c'est la logique des heures. Donc c'est un petit horologion, c'est un petit livre d'heures. Pourquoi ne pas le dire en français, d'ailleurs, ça aurait été aussi simple. Mais vous voyez, donc cette idée là est très 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 forte, cette idée de... Alors ici je vois, par exemple, si on prend la table des matières du petit livre d'heures du monastère Saint-Antoine, voilà, il donne une petite table de matière au début. Voilà. Donc, alors, dans l'ordre, c'est intéressant parce qu'il donne un ordre qui est l'ordre logique, en fait. C'est-à-dire qu'il commence par l'office des vêpres. C'est pour ça que j'avais moi-même commencé le cours par cela. Mais après ça, on a la suite. Office des vêpres, petite complie, office de minuit, office de l'orthros ou de matine. Alors, l'orthros est un synonyme quand même de matine. Hein, c'est orthros, a donné outregne en slavon et en roumain, et pour les roumains. Donc, ça, c'est l'office de matine. Et après ça, on continue. Heure de prime, heure de tierce, heure de sexe, office des typiques, heure de nonne. Et puis après ça, qu'est-ce qui suivra? Ce sera un nouveau vêpre. Donc il y a un cycle diurne, qui est claire et qui est magnifiquement organisée et qui fait que on peut avoir des journées entièrement remplies par la prière. Alors, après donc cette présentation un peu rapide, un peu schématique, je dois essayer de vous dire deux, trois choses sur que j'ai trouvé sur l'origine des heures, parce que l'origine des heures, ça va aussi avec le contenu et l'expérience. Je me méfie un peu du mot sens, parce que quand on dit le sens de quelque chose, ça a finalement une signification souvent très intellectuelle, et ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse, je pense, nous les chrétiens. Ce qui nous intéresse, c'est le vécu, l'expérience de la communauté chrétienne depuis l'origine, ou l'expérience de la personne chrétienne depuis l'origine, comme on la voit dans l'Évangile, et comme on la voit aussi dans les Actes des Apôtres, mais également dans les écrits, dans les lettres, les épîtres du saint et grand apôtre Paul, de saint Pierre, de saint Jean, de saint Jacques, etc. Partout, on voit dans tous ces écrits, on voit la vie de la communauté chrétienne. On voit les baptisés se réunir, on les voit prier, on les voit vivre vraiment quelque chose de très concret. Et donc le mot sens, si vous voulez, c'est serait plutôt le contenu, je dirais, le contenu de nos offices, peut-être plus que le sens. Bien sûr, ça a un sens, ça a une signification, on peut expliquer ce que ça veut dire, mais on ne pourra pas expliquer ce qu'on vit. Il faut les célébrer, ces offices, il faut les faire, il faut les chanter, il faut s'y mettre, il faut s'y coller, il faut les apprendre par cœur éventuellement, ce qui n'est pas une très grande difficulté d'ailleurs. Mais donc c'est dans les vivants qu'on goûte leur contenu, vous voyez. Et c'est pour ça que je suis maladroit de faire un cours, parce que dans le cours, c'est forcément quelque chose d'assez intellectuel, mais je parle du sens des choses, la signification des choses, mais je réduis finalement une réalité à un raisonnement humain, et j'appauvris cette réalité. Je ferais beaucoup mieux de dire, nous allons célébrer ensemble ces offices, et puis vous allez me dire qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez goûté, qu'est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez senti vraiment la présence du Christ dans cette prière, parce que c'est ça l'important. Est-ce que nous ressentons par le Saint-Esprit la présence invisible du Christ dans nos moments de prière? C'est ça l'important, et c'est là qu'on arrive justement à ce qui est non pas le sens des offices, mais le contenu des offices, la présence des offices, la richesse des offices, le ressenti des offices, la réalité des offices, le réel en fait, le réel. Que le sens, ce n'est pas forcément le réel. Le sens commente le réel. Le sens prend du recul par rapport au réel pour le transformer en mots, en langage, en raisonnement, en définition, et pour le classer, l'organiser. Mais le sens, ce n'est pas le réel. Le réel, c'est le vécu. Et c'est dans ce sens-là que le Christ, si vous voulez, on dit souvent, voilà, le Christ a donné un sens à la condition humaine. Je ne crois pas, personnellement, je n'ai pas l'impression. Je pense que le Christ a rempli la condition humaine de sa présence. Il a dilaté la condition humaine et la mort elle-même, il l'a dilatée par sa présence vivifiante, ineffable, personnelle, divine, sanctifiante, tout ce que vous voulez. Mais c'est tout à fait autre chose que donner un sens. Le Christ n'est pas un philosophe, et les chrétiens ne sont pas des philosophes, même si nous avons une philosophie de la vie, la plus belle du monde évidemment, c'est-à-dire que nous avons un certain amour de la sagesse de Dieu. Alors, parlons donc, si vous voulez, un peu de cette origine des heures, d'où est-ce que ça vient, et en quoi justement est-ce que ça nous relie au Christ évidemment, mais au Christ, à l'Église. À l'Église, en fait, c'est ça qui est intéressant dans l'office des heures, c'est que ce sont des offices ecclésiaux. C'est l'Église qui prie. Et nous, mais quand je prie l'office du diurne, prime, sexe, tierce, donne, etc., je me connecte à l'Église, parce que je fonctionne comme un être ecclésial. Je me relie à la communauté de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Alors, on voit que ça, parce que on voit que la communauté débaptisée, ça se voit dans les Actes des Apôtres, par exemple au chapitre 2, verset 42, on voit que la communauté chrétienne a été fondamentalement une communauté priante. Comme je l'ai dit à l'instant, c'est une communauté de célébrants, une communauté sacerdotale, c'est ça qui a été fondamental quand même. ça qui a été fondamental. La première définition qu'on peut donner du peuple chrétien, c'est d'être justement un peuple sacerdotal. C'est qui célèbre la résurrection du Christ, qui célèbre son retour, qui célèbre sa présence, qui célèbre sa parole, qui célèbre ses miracles, qui fait ce que le Christ, bon, j'ai déjà expliqué ça l'année dernière, qui est dans l'obéissance par rapport au Christ, qui fait ce que le Christ dit de faire, qui se relie au Christ célébrant, au Christ prêtre par l'obéissance. Donc c'était ça la communauté chrétienne comme on la voit. Et puis on a d'autres sources bibliques, je dirais presque chronologiquement plus anciennes. Par exemple, l'enseignement du prophète David. Le prophète David, c'est lui qui a dit, c'est dans le psaume 118, le verset 164, « Sept fois par jour, je chanterai ta louange. » Donc, il y a une origine, quand on dit que c'est l'origine de l'Église. Mais oui, mais après l'Église, c'est tout le mystère d'Israël, hein, c'est tout le mystère de la Bible. Hein, l'Église, elle n'a pas commencé à la Pentecôte. On dit qu'elle est née à la Pentecôte. Ben, je veux bien qu'elle soit née à la Pentecôte, parce que c'est vrai que ce qui est arrivé à la Pentecôte, cette descente fulgurante et unique du Saint-Esprit, cette Torah nouvelle, cette loi nouvelle de l'Esprit apparue parmi les apôtres ce jour-là, c'est vrai que c'est une nouveauté extraordinaire. Et en même temps, on ne peut pas dire que l'Église a commencé ce jour-là, parce que si on dit qu'elle a commencé ce jour-là, c'est vrai qu'on nie complètement le caractère ecclésial de toute l'histoire d'Israël et de toute l'histoire humaine d'ailleurs, en remontant à Adam et Ève au paradis. En fait, le mystère de l'Église, si vous voulez, c'est un mystère qui est présent de tout temps, dès qu'il y a eu un homme, deux hommes, deux, trois personnes, Adam et Ève, ils n'étaient que deux d'ailleurs, à être en relation avec Dieu, à lui parler ou à l'entendre leur parler. Ça a été le mystère de l'Église. Et on peut même dire que c'est probablement antérieur même à la création, puisque le mystère de l'Église, il est inclus dans le dialogue interne des personnes divines, cette communion des personnes divines, communion donc pré-éternelle des personnes divines, c'est également ça le mystère de l'Église. Mais donc, enfin bon, tout ce mystère insondable, cette mystique de l'Église avant la création et dans la création et jusqu'à l'incarnation, la mort, la résurrection, l'ascension et finalement la Pentecôte, tout ce mystère-là, si vous voulez, elle fait partie donc de notre conscience. Donc, nous trouvons dans la Bible, dans les psaumes, constamment, et les chrétiens n'ont fait que ça, trouver constamment des arguments pour ce qu'ils avaient à faire. Donc sept fois par jour, je chanterai ta louange. Ça a donné aux premiers chrétiens, parce que ce verset-là est cité tout le temps par les premiers pères, par Saint Jean Cassien, par d'autres commentateurs, après ça Origène, Clément d'Alexandrie, Tertullien. On cite ces textes-là pour montrer justement qu'il y a un caractère quantitatif dans la prière. On doit prier souvent, et on doit prier sept fois. C'est un chiffre, en numérologie, le chiffre 7 est un chiffre qui indique la perfection. Et donc, sept fois par jour, ça veut dire tout le temps, ça veut dire, bien sûr, ça veut dire sept fois, mais c'est plus que sept. C'est, si on disait 12 fois par jour, ça aurait le même sens. C'est-à-dire que je vais célébrer ta louange continuellement. Ce qui est l'enseignement des psaumes, d'ailleurs. Constamment, les psaumes disent ça. Je chanterai ta louange, louer le Seigneur, surtout les psaumes laudiques, qu'on dit justement à la fin de l'Office des Matines. Mais le psautier, qui est justement la matière, la substance essentielle des petites heures, des heures diurnes, parce que je vous le dirai tout à l'heure, ces heures diurnes sont essentiellement des lectures psalmiques, au fond, et le psautier n'arrête pas d'être une invitation à la prière et à la louange. Bon, donc, on est dans cette conscience, si vous voulez, d'une sanctification du temps, de l'année, du mois, de la semaine et du jour et de l'heure même par la prière et la louange adressée à qui adressée au Créateur, à celui qui justement nous donne ces heures, nous donne ce temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit chez les pères anciens, c'est-à-dire les anciens d'Israël, les prophètes, on voit qu'ils avaient la conscience de l'heure de la prière. C'est une expression qui revient très, très souvent. L'heure de l'oblation, dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 29, dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 21, cette expression, l'heure de l'oblation. Il y a donc une heure précise pour faire l'offrande. Ce n'est pas n'importe quand, vous voyez. L'idée, conception que nous avons au XXe siècle d'arbitraire, vous voyez, qui se manifeste actuellement dans le fait qu'on veut absolument supprimer au fond la semaine, faire qu'on va travailler le dimanche, c'est-à-dire en fait tout devient arbitraire, on va gommer tout ce qui fait le caractère exceptionnel et consacré de tel ou tel jour, c'est qu'il s'agit de désacraliser le temps. L'entreprise de l'esprit républicain, enfin, qui gagne beaucoup, qui s'impose beaucoup à travers des réformes, qui propose d'autres réformes. Le but de cet esprit républicain, le but avoué d'ailleurs de ceux qui nous gouvernent, qu'on respecte, parce qu'on les a élus de manière légale, mais enfin, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout non plus, hein. Leur but avoué est une désacralisation, justement. Donc c'est vrai que c'est très difficile de s'entendre avec ces personnes qui sont certainement des bonnes personnes par ailleurs, mais vraiment pas la même mentalité. L'Église est là pour sanctifier le temps et vivre cette consécration du temps qui vient de Dieu, et la société, principalement l'idéologie républicaine, elle est partie sur une désacralisation du temps. Donc on va dire on désacralise non seulement le temps mais la famille, le couple, la sexualité, etc. C'est une entreprise, en fait, de profanation, de sécularisation, si vous préférez, profanation, sécularisation, désacralisation. Je ne dis pas ça pour être polémique, parce que je suis très content de vivre à cette époque, disons, mais je le dis par liberté de parole, parce que quand même on a encore la liberté de parler, et puis pour justement nous faire comprendre qu'est-ce que nous sommes, que nous sommes des gens très très particuliers. Nous ne sommes pas des citoyens comme les autres. Nous sommes des citoyens priants, des citoyens prêtres, des citoyens prophètes, et des citoyens rois, ben oui, et des citoyens qui consacrent alors que le monde désacralise. Donc nous avons une activité originale qui n'est pas en contradiction avec la société, mais enfin qui est en tout cas originale et spécifique. Et c'est beaucoup plus fort que dans l'Antiquité, ça. Parce que l'Antiquité juive ou grecque ou romaine, si vous voulez, comportait une certaine sacralisation, sacralité du temps. Bien sûr. La communauté chrétienne ne s'est pas développée dans un monde séculier. Elle ne s'est pas développée dans un monde où les gens ne connaissaient pas Dieu, et pas du tout. Elle s'est développée dans un monde qui était saturé de connaissance de la divinité, relative, si vous voulez, certainement pas la connaissance parfaite de la divinité, mais une certaine connaissance de la divinité, une certaine intuition du divin, au moins sous sa forme païenne, au moins sous sa forme idolâtre, au moins sous sa forme polythéiste, ce que vous voulez, le monde romain, grec et juif, pour forte raison évidemment, n'était pas un monde sécularisé ou en voie de sécularisation, absolument pas. Absolument pas. Et d'une certaine façon, comme ça a été montré, le christianisme a plutôt entrepris une certaine forme de sécularisation de la société et de la civilisation, puisqu'il a, par exemple, il a détruit les idoles pour les remplacer par le vrai Dieu. Donc il a introduit la distinction entre créateur et créature, et ce qui, donc d'une certaine façon, opérait la disqualification religieuse des créatures, parce qu'on n'était plus identifié avec la divinité. Mais en même temps, en faisant ça, le christianisme a réévalué aussi et toutes les créatures, parce qu'il leur a rendu leur statut justement de créatures de Dieu, c'est-à-dire de créatures qui manifestent l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, etc. Mais là, actuellement, nous vivons, nous les chrétiens, et je le dis pour la prière justement, nous vivons dans un monde qui est vraiment très 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 différent. Mais ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de garder la tradition, justement. Je pense que c'est une erreur importante. Moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis entré dans l'Église orthodoxe, personnellement. C'est que je pense qu'on a absolument besoin de garder la tradition ancienne des chrétiens pour être vraiment utile à quelque chose dans le monde contemporain. Autrement, on est balayé, si vous voulez. Les chrétiens qui acceptent effectivement de célébrer la messe dominicale le samedi soir ou le dimanche soir, ce sont des chrétiens qui ne résistent pas, qui sont en train d'être balayés par le sécularisme, c'est tout. Donc il faut savoir aussi ce qu'on veut et ce que Dieu veut. Je pense que pas. Oui, je crois effectivement que Dieu ne veut pas que le monde soit désordonné. Je pense que Dieu ne veut pas que le monde soit un chaos. Je pense que Dieu ne veut absolument pas que le monde qu'il a créé soit livré à l'arbitraire, à la fantaisie, aux caprices et aux passions des hommes. Pas du tout. C'est pas du tout ça que Dieu veut. Et on le sait très bien par l'ensemble de la Bible et de la tradition de l'Église. Alors, donc, il y avait, pour les anciens, pour y revenir, donc, des heures précises et non arbitraires, l'heure de l'oblation, dans le livre de Judith, l'égale expression, l'heure où on allait offrir l'encens. Et cette expression est reprise dans l'évangile selon saint Luc, c'est au chapitre 1, c'est intéressant parce que justement, dans saint Luc, il y a cette conscience, justement, juive, cette conscience juive des heures, là, c'est saint Luc, chapitre 10, c'est l'histoire de saint Jean-Baptiste. Voilà. C'était autour de sa classe que Zacharie remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales. Il fut, suivant l'usage liturgique, désigné pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'encens. Donc il y avait l'heure de l'encens. Oui, les gens le savaient très bien puisque c'était venu. Mais il n'y avait pas de montre, on n'allait pas regarder sur Internet les programmes de telle église. Mais on le savait. On regardait dehors le soleil, et on disait, ça c'est l'heure de l'encens. Et on va au temple, on participe à ça. Oui, nous maintenant, nous sommes obligés d'aller sur le site de telle ou telle paroisse pour savoir à quelle heure ils célèbrent tel office. Mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Ça veut dire qu'au fond, chaque paroisse fait ce qu'elle veut, ce qu'elle peut. Oui, on n'est pas du tout dans la même philosophie. Je vais y venir à ça. C'est au fait qu'il ne s'agit pas d'heure humaine. Ce ne sont pas nous les hommes qui disons à Dieu quand est-ce que c'est le moment de prier. C'est Dieu qui nous invite lui-même à travers sa création, à le prier à tel ou tel moment. Bon, et puis, ce qui est intéressant, c'est que les anciens, le prophète David le fait avec le 7 fois par jour, je dirais ta louange, mais d'autres anciens, par exemple, je le cite parce que c'était utilisé par les premiers chrétiens dans le livre de Daniel. Le prophète Daniel, justement, il dit ça, j'aurais bien retrouvé le passage, mais j'ai eu tort de ne pas le noter. Il dit question justement de cet horaire et cette fréquence de la prière. Ah, pardon. Voilà, Daniel, ouf, merci mon Dieu, merci mon Dieu, je l'ai trouvé. Alors, Daniel, chapitre 6, verset 11, là, il y a une affreuse histoire avec Nabucodonosor avant, j'avance, voilà, ah, 6, 11, voilà, donc il y a eu une sombre histoire, le roi a décidé de jeter les gens dans une fosse aux lions. Toute la décision, c'est la suivante, pour montrer l'importance de la prière quand même. Tout homme qui, au cours des 30 jours à venir, adressera une prière à quiconque, Dieu ou homme, autre que toi, ô roi, Nabucodonosor, sera jeté à la fosse aux lions. Ô roi, donne à présent force de loi à cet interdit en signant cet acte, en sorte qu'on n'y change rien selon la loi des Mèdes et des Perses, laquelle ne passe point. En raison de quoi le roi Darius, me suis trompé, c'est pas Nabucodonosor, c'est Darius signa l'acte d'interdit. Donc, quelque chose d'horrible. Et voilà là, ce que fait le prophète Daniel. Apprenant, verset 11 du chapitre 6, apprenant que l'acte avait été signé, Daniel monta dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient orientées vers Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux, priant et confessant Dieu. C'est ainsi qu'il avait toujours fait. Ces hommes s'en vinrent en nombre et trouvèrent Daniel qui priait et implorait Dieu. Alors ils s'introduirent auprès du roi, donc Darius, et lui rappelèrent l'interdit royal. Le roi répondit, la chose est tranchée définitivement. Et alors ils disent au roi, mais Daniel, cet homme d'entre les gens de la déportation, la cure de toi, et trois fois par jour, c'est au verset 14, trois fois par jour, il s'acquitte de sa prière. Donc ils ont remarqué que c'est, ah, ça, c'est terrible ça. En entendant ces mots, le roi Darius éprouva une grande douleur et résolut de sauver Daniel. Parce qu'en fait, il y avait une sympathie. Et là, il est très, très triste d'apprendre que Daniel, pour lequel il a de la sympathie, a fait quelque chose qui est absolument interdit et qui mérite la mort. Ah ! Jusqu'au coucher du soleil, il s'ingénia à lui trouver une échappatoire. Mais les gens revinrent s'empresser auprès du roi en disant « Sache, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, aucun interdit ou édit porté par le roi ne peut être révoqué. Alors le roi donna ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. » Voilà. Je regarde, c'est autre chose important. Non, après ça, il y a l'histoire des lions. Les lions étaient très, très gentils ce jour-là, parce que Daniel était là, ils sont venus, ils ont fait des câlins et tout, ça s'est très, 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 très bien passé, parce que justement, Daniel avait prié. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est que les déportés, de... Ah bon, les déportés du peuple de Juda. J'avais vu l'expression tout à l'heure, je ne la retrouve pas, mais ce n'est pas grave. Ah oui, les gens, ça s'appelle les gens de la déportation de Juda. C'est une périphrase pour désigner donc les Juifs. Et donc ces Juifs avaient été repérés au sein chez les Perses comme des gens qui priaient et qui priaient trois fois par jour. Et ça, la prière, l'origine des prières des heures. Les premiers chrétiens se sont souvenus de ça parce qu'ils lisaient la Bible et donc ils ont retrouvé ça. Ils ont dit, mais si Daniel priait trois fois par jour, nous aussi on peut faire ça. Et si David a dit de prier sept fois par jour, bah, nous aussi on peut faire ça. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est l'heure de la prière, si vous voulez, telle qu'elle est suggérée et donnée en exemple bibliquement. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'heure de la prière, c'est l'heure de Jésus, c'est l'heure du Christ. Les petites heures, on va peut-être le revoir tout à l'heure avec les textes que je vais vous lire, il faut penser au caractère extrêmement christocentrique de ces offices du jour, de la nuit aussi, des yamés du jour. Par exemple, vous savez très bien que l'office de nonne, donc est un office de la neuvième heure. Mais la neuvième heure, c'est l'heure à laquelle le Christ a été est mort. C'était le vendredi, en l'occurrence. Mais donc cette heure, cette neuvième heure du jour, a été consacrée, sanctifiée, mais pour toujours, par Dieu lui-même, par le Dieu homme lui-même, quand il est entré, quand il est entré dans la mort à ce moment-là. Donc vous voyez, cette heure de prière, cette neuvième heure pour prendre celle-ci, cette heure de prière, à la limite, ce n'est pas nous qui la choisissons, mais elle nous est donnée par Dieu lui-même, par son économie de salut, et nous la recevons de lui, et c'est la recevant de lui que nous la lui offrons à nouveau en le faisant. C'est pour ça que moi je veux bien qu'on célèbre nonne quand vous voulez, le matin, après s'être lavé les dents, si ça vous arrange. Bon, mais ce n'est quand même pas ça qui est la réalité. La réalité, c'est que Dieu a sanctifié cette neuvième heure de la journée par sa mort, qui était déjà une mort vivifiante, comme vous le savez très bien, puisque nous ne séparons pas la mort et la vie. Quand le Christ est entré dans la mort, il est entré comme un vivant. C'est une chose assez extraordinaire, d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez, ce caractère... dire que c'est l'heure à laquelle, ou l'heure ou les heures auxquelles sont célébrés les offices, du jour en particulier, sont des heures divines, données par Dieu. Et en tout cas, elles sont données par Dieu à travers la création, même si elles ne sont pas des heures liées à un acte divin précis. Par exemple, lors des vêpres, si vous voulez, il n'y a pas d'événements christocentriques très particuliers, sauf que quand on chante Lumière joyeuse, ça désigne le Christ, et sauf que également on chante le cantique de Siméon quand même, qui dit « Et maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix ». Donc la fille de Vep fait mémoire quand même du Christ Lumière. Enfin, même en admettant cela, Dieu nous donne lui-même, à travers l'organisation de la création, il nous donne des temps, des moments, et nous les recevons de lui pour les lui offrir à nouveau. C'est ça la dimension sacerdotale de la prière. C'est toujours offrir à Dieu ce qui vient de Dieu. Dieu nous donne le temps, nous donne ses heures, et nous les lui offrons en les lui consacrant et en nous consacrant nous-mêmes, en offrant ce temps-là, en le prenant le temps sur le travail, en éteignant la télévision si nous l'avons, en arrêtant de jouer, en arrêtant de, je sais pas, de faire quoi autre que ce soit d'autre, parce que voilà, ce moment-là, il est consacré à Dieu, mais je le consacre à Dieu et je me consacre aussi à lui, moi qui suis quand même consacré déjà par le baptême. C'est toujours pareil, c'est nous qui, ce qui est à toi, toi qui es Dieu, ce qui est à toi, ce qui vient de toi, nous qui sommes à toi, nous te l'offrons à toi, pour ceux qui sont à toi. Oui, c'est ça le principe de l'offrande sacerdotale. Ça se rapporte bien sûr au pain et au vin eucharistique, évidemment, mais ça se rapporte aussi à bien d'autres offrandes, et particulièrement à l'offrande du temps. Les prières et les heures sont des offrandes du temps. C'est pour ça que c'est très important, elles ont une valeur sacramentelle, si vous voulez. Ce ne sont pas seulement comme des rites, des habitudes extérieures, c'est très bien tout ça, si vous voulez. Mais elles ont une dimension sacramentelle parce que ce sont des offrandes. En fait, ce sont des offrandes, l'offrande du temps. Alors, je vous lis ici, là, un peu les thèses que j'ai repérées, qui commentent un petit peu tout ça, puis je vais les commenter également. D'abord, ce que dit Paul Evdokimov dans son livre que j'ai cité en bibliographie, « La prière de l'Église d'Orient », c'est page 36, j'ai 37. Je vous lis ça, vous avez la citation qui commence là. Au début de l'Église, ces premières communautés chrétiennes qu'on connaît, on les connaît par les Actes des Apôtres, on les connaît par la Didache, on les connaît par les Épîtres de Saint Paul. On a quand même beaucoup, beaucoup de textes anciens du 1er siècle, si vous voulez, qui décrivent la communauté chrétienne. Nous ne sommes pas absolument pas ignorants, disons, de la façon dont les premiers chrétiens fonctionnaient, pas du tout. Hein. Donc au début, dit écrit Paul Evdokimov, l'Eucharistie n'était célébrée que le dimanche. Donc ça veut dire que à la semaine, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est très important ça, parce qu'il y a une évolution chez les chrétiens ou chez certains chrétiens qui n'est pas définitive, mais on voit qu'il y a des endroits, si vous voulez, où on a pris l'habitude de célébrer la liturgie ou la messe quotidiennement. C'est certainement très bien, certainement bon, mais en fait c'est pas exactement ça, si vous voulez, qu'on pourrait faire. On pourrait effectivement célébrer le dimanche quand tout le monde est là, quand l'assemblée, quand l'église est réunie, l'église dans sa totalité, selon les canons anciens de l'église, où tout le monde doit être là le dimanche. Et si quelqu'un manque trois dimanches de suite, il est considéré comme excommunié, d'après les canons anciens, et il doit se justifier. Donc la célébration dominicale, c'est une célébration plénière. Et si on célèbre tous les jours, c'est très bien, si vous voulez, mais on n'aura jamais la communauté réunie. On n'a que des bouts de communauté, ceux du lundi, ceux du mardi, ceux qui peuvent le mercredi, ceux qui ont raté la liturgie dimanche et qui vont y aller quand même le jeudi. Enfin bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment tellement ça. Mais je sais qu'en disant ça, il y a peut-être parmi les personnes qui écoutent, qui sont absolument pas d'accord avec ce que je dis, puisqu'ils vont dire, mais pas du tout, on doit faire comme ça, dans l'église russe on fait comme ça, dans l'église roumaine on le fait aussi, hein. Et puis nous les catholiques on le fait, on dit la messe tout le temps. Mais je fais remarquer que, dans l'église russe je ne sais pas, mais dans l'église catholique, moi je suis bien l'église catholique donc j'en parle assez librement, à force de célébrer la messe tout le temps, pour toute occasion, alors il y a les messes des défunts, il y a les messes des malades, il y a les messes des enfants, il y a les messes des âgés, il y a les messes bon, en fait la messe devient une espèce de monopolise un peu toutes les formes de prière et perd aussi sa dimension éclatante et pascale. Moi, je trouve ça, je pense, je tout ça regrettable. Il faudrait quand même en discuter, et je ne sais pas si le cours est fait pour ça, par exemple, dans les paroisses, puisque moi je m'adresse ici certainement à des gens qui vivent dans les paroisses, eh bien, moi j'encouragerais plutôt à dire les heures dans la semaine, et sans prêtre, à se réunir sans prêtre, à dire les heures, et puis à considérer que quand il y a un prêtre et qu'on peut célébrer la divinité le dimanche, eh bien c'est Pâques. Bon. Donc au début, l'Eucharistie n'était célébrée que le dimanche, dit Paul l'évêque qui mort, les jours de la semaine comportaient le cycle quotidien. Donc dont j'ai déjà parlé. Alors, il continue les matines, les heures et les vêpres, en suivant l'ordre de la prière synagogale. Ça c'est intéressant, donc les documents considèrent qu'il y a derrière notre prière chrétienne ancienne, la prière des heures, qu'il y a une coutume juive, une manière juive de fonctionner, que ça nous relie aussi au judaïsme, ce qui est très très important, c'est qu'il faut toujours chercher les moyens de nous connecter au judaïsme, parce que le judaïsme est notre racine, c'est le tronc de l'arbre que nous formons. Le culte juif voyait dans la semaine le rythme même de la création du monde. La bénédiction sur le jour signifie que l'homme, chaque matin, restitue à tout être et à toute chose son sens biblique. Être créature de Dieu, appelée à le louer, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, dit saint Pierre. Donc vous voyez, la prière diurne, ça éveille dans la conscience de l'être humain que chaque être, chaque chose, le mot chose n'est peut-être pas le meilleur, mais chaque être, chaque créature a un sens biblique. Oui, et ça m'a frappé le dimanche dernier, nous avons célébré à Limours, nous avons célébré dans le parc, parce que lui il était petit, et pendant toute la célébration de la divine liturgie, qui était donc chantée et tout, nous étions sous les arbres, les marronniers, et pendant toute la liturgie, il y a eu un merle qui a chanté. Je pense qu'il avait son nid dans l'arbre, et donc c'était vraiment impressionnant. Dès que le chœur chantait un peu moins fort, on entendait cet oiseau, et donc c'était très frappant de voir cette façon dont la création, en fait, participe à la liturgie, consciemment ou pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un merle. Est-ce qu'il a, vraiment une conscience théologique des choses? Mais il le fait. Il le fait et il participe. Donc c'est ça notre regard aussi sur les créatures, sur l'heure, sur le temps, sur les oiseaux, sur les plantes, cette manière de voir toutes choses comme créatures de Dieu et comme fonctionnant dans cette dynamique qui est cosmique, mais qui est divine dans le cosmos. La journée vécue, c'est toujours Paul Evdokimov que je lis, la journée vécue se présente ainsi d'emblée comme un moment de l'histoire du salut où l'homme accomplit sa tâche à lui confiée par Dieu. C'est cette tâche qui s'écrit avec un accent circonflexe, une tâche, bon, c'est-à-dire son travail. Qu'est-ce qui a été confié à Dieu? Mais c'est justement cette royauté, ce sacerdoce, cet esprit prophétique donné au paradis, oui. Et si nous célébrions les offices du jour avec cette conscience-là, nous verrions toutes les implications, toutes les conséquences, tous les prolongements de notre prière pour le monde et pour le salut du monde. Oui, mais ça dépend de nous, de savoir dans quel esprit nous célébrons. Bien sûr, on peut prendre le livre d'heures et puis dire les prières à la suite, à toute allure, éventuellement en faisant autre chose. Ça peut se faire, ça se voit d'ailleurs, mais ça, on n'aura jamais cette conscience théologique que les offices sont censés nous donner. Alors je continue toujours Paul Evdokimov. Les tierces, sexes et nonnes marquent les 9, 12 et 15e heures de la journée et opèrent le triple retour. Alors lui, il insiste beaucoup sur le fait, sur ces trois heures-là. En fait, je vais le dire tout à l'heure, avant tierce, il y a quand même l'office de prime. Mais en fait, je crois que ce que j'ai lu ailleurs par Saint-Jean Cassien qui dit ça, l'office de prime est un office un peu plus tardif. Les heures vraiment primitives, elles étaient trois. C'était ces trois heures-là, tierce, sexte et nonne. d'après le souvenir du prophète Daniel et d'après la coutume de la synagogue. Car les heures du jour les plus anciennes, ce sont ces trois-là. Donc, ce que j'ai dit, 9h du matin, midi et 15h. 9h du matin, c'est... Bon, c'est approximatif, d'ailleurs, parce que on va dire tout de suite après, c'est en fait l'heure solaire qui fonctionne. Donc, midi, par exemple, bah, c'est quand même une heure précise, c'est le milieu du jour. Quand on regarde le soleil, on dit, il est midi. Bah, on ne regarde pas sa montre, on regarde le soleil. Bon, voilà. Et donc, il dit, c'est très beau, il dit, marque les heures de la journée, et hop, opère le triple retour à Dieu au milieu des occupations des hommes. Retour à Dieu, c'est une très belle... Donc, trois fois par jour, l'être humain revient par Dieu, revient vers Dieu et marque une pause, dit-il, une pause qui ouvre le temps sur sa dimension liturgique. Il ouvre le temps. Oui. Mais c'est vrai que si nous ne le faisons pas, le temps, ben, le temps devient une chose, devient un objet... Eh bien, je me rappelle d'avoir parlé à un de mes amis qui est décédé cette année, donc que Dieu lui pardonne, mais il me dit, mais le temps n'existe pas. C'est un homme très, 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 très loin de la vision biblique et chrétienne du monde, il a soutenu absolument que le temps n'existait pas. J'ai dit, bon, on ne va pas discuter, mais je l'ai dit plusieurs fois, ben, nous les chrétiens, nous disons que le temps existe parce que nous ne pouvons pas dire que n'existe pas quelque chose que Dieu a créé et nous a donné. Or, nous voyons dans le livre de la Genèse que Dieu a créé le temps. Le temps était, on ne peut pas dire que le temps n'existe pas, parce que le temps est une créature. On ne vit pas dans le néant non plus. Et, alors, indépendamment du fait que nous constatons l'œuvre du temps chez nous, parce que nous vieillissons, parce que nos chiens vieillissent, parce que les arbres ont poussé dans le jardin qu'il faut les couper parce qu'ils sont trop grands. Donc, il y a certains signes extérieurs du temps. On dit qu'on voit on voit qu'on vieillit ben, parce que les enfants grandissent, etc. Mais ça, c'est l'aspect le plus superficiel du temps, mais dans sa réalité profonde, le temps en tant que créature est un sacrement, ce qu'a très bien montré le père Dometrius Tanelloé, justement, dans sa dogmatique, que le temps est un sacrement de communion de Dieu et de l'homme. Le temps a été donné à l'être humain pour être un lieu, et donc en fait un sacrement, un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, et un lieu d'échange dans l'amour de Dieu et de la créature. Donc ce n'est pas rien le temps. Ce n'est pas rien. Il ne faut pas dire n'importe quoi non plus, surtout qu'à partir du moment où on est chrétien, on a une conscience, une connaissance que les autres n'ont pas. C'est incontestable. Hein. Autour de nous, les expressions qui portent sur le temps sont des expressions terribles. On parle de perdre le temps, on parle de tuer le temps, ce qui est effrayant. Et que, par exemple, quelqu'un, les personnes profondément désespérées m'ont dit une fois, oui, oh bah, ça peut toujours une journée de passer. Comme si vraiment on n'avait rien d'autre à faire que passer le temps et arriver vite à la mort. Et donc, avouer que la mort, au fond, domine, quoi, à gagner. C'est terrible. Mais ça, ce n'est pas être chrétien. Un chrétien ne va pas dire quelque chose comme ça. C'est impossible. Impossible, vous voyez. Un chrétien ne dira pas ça, sauf s'il est dans une autre dynamique, qui est tellement pressé de rencontrer le Seigneur dans la mort, alors qu'il est vite, que le temps passe, et que je me trouve, comme disait saint Paul, que je me trouve vite, uni au Christ, bon, ça c'est un peu autre chose. Mais dans l'expression « tuer le temps »,« passer le temps »,« perdre le temps », là il y a vraiment sur des péchés très graves, très très graves. Et au contraire, l'apôtre Paul parle, lui, de racheter le temps, de sauver le temps. C'est-à-dire ne pas laisser le temps être dégradé, vous voyez. Ça c'est même intéressant du point de vue de la physique, vous savez qu'on parle d'entropie à propos d'une certaine dégradation de l'énergie, du temps, etc. Mais il y a la négentropie qui justement réévalue tout ce qui a été dégradé. Et nous les chrétiens, nous sommes là justement pour réévaluer les choses. Ça, je voudrais bien insister un petit peu là-dessus. C'est ça l'œuvre de l'Église. C'est la réévaluation, la revalorisation, la requalification de tout. C'est très important. Tout ce qui se disqualifie, et l'Église le requalifie. Et le réévalue, lui donne sa force, sa profondeur, sa signification aussi, si vous voulez. Mais surtout, elle le gonfle de la présence de Dieu. et elle lui rend son statut d'élément de communion, d'espèce, ça veut dire d'espèce sacramentelle pour la communion avec Dieu. Donc voilà, il insiste beaucoup là-dessus, ce triple retour à Dieu au milieu des occupations des hommes, une pause qui ouvre le temps sur sa dimension liturgique. Ainsi continue Paul Evdokimov, sexte, mémorer la crucifixion, non, la mort de Jésus, on l'a dit tout à l'heure, et tierce, la descente du Saint-Esprit, et ça on le sait par les actes des apôtres également. Les offices de prime et de compli, et donc qui commencent et achèvent la journée. Alors c'est vrai qu'une journée qui serait complète, par exemple dans un monastère, on aurait prime, tierce, sexe, non, vêpres, et compli, au moins pour la journée. Après ça, la nuit, on aurait les offices de la nuit qui sont l'office de minuit, l'office royal, et l'orthros, voilà. Et puis on retrouverait l'office de prime. Donc, mais alors ça, c'est autre chose. Si on commence à parler de la prière nocturne, c'est un petit peu autre chose, parce que c'est la prière nocturne a dans l'expérience chrétienne une place tout à fait particulière, tout à fait intéressante, mais qui n'est pas notre sujet. Là, je parle de la prière diurne, justement. Donc, vous voyez comment il s'exprime Paul Evdokimov, mais ça correspond à ce que je voulais vous dire. Et puis, alors, un autre texte que j'ai rapporté aussi pour vous le lire, c'est justement le texte de Monseigneur Duchesne dans les origines du culte chrétien. Je vous lis ça parce que ça illustre ce que j'essaie de dire, ça dit beaucoup mieux ce que j'essaie de dire moi-même maladroitement. Voilà ce qu'écrit Monseigneur Duchesne. L'idéal de la vie chrétienne était une perpétuelle communion avec Dieu, entretenue par une prière aussi fréquente que possible. Alors il en parle au passé, ce qui est attristant. On dirait qu'il n'y a plus de chrétiens sur terre. On pourrait mettre tout ça au présent quand même. Hein. Lui, il le met. Parce qu'en fait, il est en train de décrire la vie des communautés de la première Église. Un chrétien qui n'aurait pas prié tous les jours, et même à diverses reprises, n'eût pas été chrétien. Donc, voilà, un chrétien qui dit « je prie jamais », ben, c'est pas un chrétien. Mais c'est intéressant, c'est que la prière est constitutive de l'état chrétien. Mais comme un juif, un vrai juif est un homme qui prie tous les jours et plusieurs fois par jour, incontestablement. Mais pas seulement un vrai juif, mais un vrai hindou. Ça va être enregistré dans l'hindouisme, dans n'importe quelle tradition religieuse sérieuse. Et l'hindouisme est une tradition extrêmement sérieuse. Eh bien, l'être humain prie tous les jours et à plusieurs reprises chaque jour, et à des moments précis de la journée, et pas n'importe quand. Donc, j'allais dire aussi l'idée de prier à des heures précises. Ce n'est pas seulement quelque chose qui vient du judaïsme, mais c'est quelque chose qui appartient à la tradition humaine, universelle, et qu'à faire un peu d'histoire des religions pour s'en apercevoir. Ça. C'est nous, dans les temps modernes, qui perdons ça, ou l'avons perdu. C'est, le problème, il est chez nous, il n'est pas chez les autres. Hein. Alors, regardez, si vous avez des amis juifs qui sont pratiquants, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y a quand même des juifs pratiquants qui se font le Shabbat sérieusement, du vendredi soir au samedi soir, ben, je vous assure qu'ils ont une conscience du temps, une conscience des heures, qui est tout à fait extraordinaire, mais qui nous fait bien comprendre que nous aussi nous avons ça, vous voyez. C'est pour ça que c'est l'intérêt de fréquenter le judaïsme aussi, parce que ça remet les pendules à l'heure du point de vue de ce que nous essayons de vivre. Alors donc voilà ce qu'écrit donc Monseigneur Duchesne. Un chrétien qui n'aurait pas prié, etc., n'eût pas été chrétien. Il parle des prières fondamentales qui étaient les prières du matin et du soir, dans la journée. Certains moments étaient indiqués soit par la Bible, ça je voulais citer les passages, soit par la tradition juive. Vous voyez, c'est très important, c'est que c'est pas seulement la proximité, mais les chrétiens étaient des juifs. C'est ridicule de dire que la communauté chrétienne était proche du judaïsme, ça veut rien dire. Ben, la communauté chrétienne, c'était des juifs. Tous. Il n'y a pas un seul des premiers baptisés, des premiers chrétiens, des premiers disciples qui n'ait pas été juif. C'est insensé d'oublier ça. C'est bien après, à partir de Saint Paul, qu'on a eu des chrétiens venus du non-judaïsme. Mais même ceux qui portent, des gens qui portent des noms grecs, par exemple, dans le Nouveau Testament, comme l'apôtre Philippe, mais ce sont des juifs, hein, mais des juifs hellénisés, comme on dit. Donc la question se pose pas, disons, de comparer la communauté des chrétiennes aux judaïstes. La question ne se pose pas. Ils fonctionnaient comme des juifs qu'ils étaient. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, tout de même, hein. Bon, donc c'est pour ça qu'ici, la façon dont s'exprime cet auteur chrétien, qui est un très bon auteur, que je respecte beaucoup, et c'est un petit peu artificiel, parce que dire soit par la tradition juive, ben oui, parce qu'il l'était, soit même, alors ça c'est intéressant, par l'usage de la vie quotidienne et civile. Et dans le cas de l'Empire romain, il y avait des heures qui étaient fixées par l'État, vous voyez. Et les termes de prime, sexe, etc., sont des termes qui viennent de la société civile romaine, hein. Il était naturel, dit continue Mgr Duchesne, il était naturel, par exemple, de profiter du moment où la famille se réunissait pour le repas au milieu du jour. Donc, finalement, l'office du milieu du jour, l'office de sexe, qui se fait à midi, à midi solaire, c'est aussi le moment du repas du milieu de la journée. Donc, il faut penser que les chrétiens aussi, les familles chrétiennes, avaient des moments de prière fixes et réglés, au moment des repas, oui. Et un peu plus tard, continue-t-il, du moment où elle se séparait de nouveau pour vaquer au travail quotidien. On obtenait ainsi deux prières régulières, deux heures, observées d'une façon privée, mais habituelle. D'autres se rappelaient que Daniel priait trois fois par jour, je vous ai dit tout à l'heure. Les trois heures étaient indiquées par les actes des apôtres. Donc c'est quand même quelque part, vous voyez, ce ne sont pas des inventions. Les trois heures étaient indiquées par les actes des apôtres, où l'on voit les disciples réunis pour la prière à l'heure de tierce, lorsque le Saint-Esprit descend sur eux le long de la Pentecôte. Saint-Pierre monté à l'étage supérieur de sa maison pour y prier à l'heure de sexte, avant de prendre son repas, donc c'est l'heure du milieu de la journée. Enfin, les apôtres Pierre et Jean entraient au temple pour y faire la prière à l'heure de nonne. Donc, ces petites heures, au moins ces trois petites heures-là, tierce, sexte et nonne, sont enracinées dans la vie de la communauté chrétienne première et dans le judaïsme à laquelle cette communauté appartenait. Et alors, après ça, Mgr Duchesne dit que ceci avait été remarqué par les pères anciens. Tertullien développe ça dans son livre sur le jeûne, au chapitre 10. Saint Cyprien, je pense à Saint Cyprien de Carthage, oui, développe ça dans un traité sur la prière. Et donc, ces écrivains-là nous renseignent sur l'usage des trois heures du jour. On trouve également des traces de ça chez Clément d'Alexandrie. Voilà. Donc c'est très, très... je voulais parler de l'origine, c'est très, très ancien, ça. Et donc, c'est Abrol qui explique qu'en fait, ces prières-là, ça s'est organisé d'une manière plus formelle, si je peux dire, d'une manière plus canonique, plus régulière, plus réglée aussi, dans les églises et dans les monastères entre le 4e et le 7e siècle. Et à partir du 7e siècle, les offices des heures dans les différentes traditions liturgiques sont à peu près fixés, disons. Donc voilà ce qu'écrit donc Abrol dans le livre que j'ai cité, c'est le livre de la prière antique, voilà. La journée est partagée en cinq parties, de 3 heures en 3 heures, selon la division gréco-romaine de la journée. Prime à 6 heures du matin, donc ça c'est à partir entre le 4e et le 7e siècle, hein, ce que je vous ai dit, le vice de prime est arrivé un peu plus anciennement, il ne fait pas partie des heures tout à fait anciennes comme ce sont les trois autres, hein. Mais bon, là on dit à partir du 4e, 7e siècle, c'est Saint Jean Cassien aussi, je crois, qui est la source pour ça. Prime à 6 heures du matin, tierce à 9 heures, sexe à midi, nonne à 3 heures, vêpres à 6 heures. Et on a ajouté le soir une prière, celle de compli, avant d'aller prendre le repos de la nuit. Fin de citation. Alors la note est note de donc Abrol, toujours dans ce livre, et dans sa note il dit ceci, entre guillemets, cet horaire est établi comme la journée antique sur le cours du soleil. C'est l'heure solaire. De sorte par exemple que l'heure de l'aube et celle de vêpres varie chaque jour avec le cours du soleil. Donc, dans le système de la prière antique des chrétiens, c'est bien ce que je vous dis, c'est que c'est Dieu qui donne l'heure. C'est pas nos montres. Il est, il il est inconcevable, mais pourtant c'est ce qui se passe, que nous fixions, nous, l'heure de la prière. C'est attristant, oui, de voir à quel point la tradition quand même se perd. C'est attristant. Et en perdant la tradition, on perd le sens des choses, on perd la relation au réel, on perd le temps. Au lieu de le sanctifier, il y a le temps d'un côté, et puis notre temps à nous, préfabriqué, de l'autre. Nous vivons, les hommes vivent selon leur temps. C'est un anthropocentrisme terrible. Et au lieu de recevoir de Dieu le temps, nous organisons le temps à notre manière et nous l'imposons à Dieu. Comme Dieu est très bon, très miséricordieux et très gentil, il accepte d'être prié tout le temps. Donc c'est pas Dieu le problème, c'est nous. Mais nous privons de recevoir de Dieu le temps qu'il a préparé pour nous et qu'il nous prépare tout le temps. Surtout quand il fait très beau, comme aujourd'hui, par exemple. On voit bien, même sans regarder sa montre, on voit très bien qu'il doit être à peu près telle heure, à peu près telle heure. Moi, j'ai vu, j'avais un ami qui est moine à Chypre, et ce garçon, dont j'ai beaucoup appris d'ailleurs, il n'a jamais eu de montre. Mais jamais, jamais, jamais. Je ne l'ai jamais vu de montre, je n'ai jamais vu regarder la montre. Il n'avait pas de montre. Mais il n'a jamais été en retard. Jamais. Il savait très très bien qu'est-ce qu'il fallait faire à tel moment, quel était le... Ah, il dit, ah, il faut qu'on y aille, on nous attend. Il dit, mais comment vous savez ça? Je sais pas, c'est le moment. Et c'était très... Là, en grec, c'est très intéressant, il y a un mot en grec, c'est pas chronos. Chronos, c'est le temps qui s'écoule, qui a des chronologies. Mais là, c'est kéros, c'est le moment. Au début de la liturgie, le diacre dit au prêtre ou à l'évêque, maître ou père, c'est le moment de célébrer. Vreme, c'est très intéressant, je ne l'ai pas la liturgie, mais elle commence quand même comme ça, c'est extraordinaire. Mais le diacre ne regarde pas sa montre. Il le fait malheureusement. Mais normalement, il n'y a pas à regarder sa montre, tu sais. Tu regardes la lumière et tu dis, c'est le moment de célébrer. C'est étonnant, ça. Enfin, je trouve ça très, très, très important. Et alors, donc, il dit ça. Donc voilà, c'était l'heure solaire. Ce qui fait qu'effectivement, l'hiver, les matines ou l'aude, ça sont beaucoup plus tard. C'est-à-dire que lui, il distingue, le Cabrol, il distingue l'aude et matine. Alors que nous, dans le système qu'on a, le système gréco-slave, byzantin, comme on dit, en fait, nous soudons l'aude, l'aude sont la fin de nos matines. Donc, la question se pose un petit peu différemment. Nous célébrons quand même une matine avant le lever du jour. Mais ce avant le lever du jour, il va être quand même plus tard en hiver qu'en été. Et l'été, effectivement, c'est un peu plus fatigant. Il faut se lever plus tôt. Moi, je le dis parce que j'ai l'expérience de dire le fils tous les jours, j'ai toujours fait. Et puis, je suis en ligne d'église orthodoxe, c'est-à-dire presque bientôt 40 ans. J'ai toujours, presque, je crois que j'ai toujours célébré le fils le matin. Mais donc, je me rends bien compte qu'en ce moment, c'est beaucoup plus fatigant. Parce que si je veux vraiment célébrer le fils de matine à l'heure que Dieu me donne, il faut que je mette mon réveil à 5 heures. Vous voyez? De toute façon, à célébrer avant que le jour ne se lève. Parce que l'autre jour, c'est arrivé, un de mes amis qui avait un train à prendre, il m'a dit, est-ce que tu peux me conduire au train? Le train était à 5h, moi le quart. Je lui ai dit, oui, c'est un ami. Mais j'étais très content de faire ça, parce que je me suis aperçu que, à cette heure-là, le jour, il n'est pas tout à fait levé, il commence à se lever, et les oiseaux le savent. Parce que les merles, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, merles, c'est un oiseau très intéressant, les merles chantent avant qu'on ne voit le jour. C'est-à-dire qu'ils anticipent. Bon, je dis les merles, moi, les griffes musiciennes aussi, d'autres chanteurs, mais chez le merle, c'est très, très impressionnant. Mais si vous promenez votre chien à 5h du matin, je sais pas, parce que vous êtes rentré très tard, ou vous allez partir tôt, et vous entendez les merles qui chantent alors qu'il ne fait pas jour. Bien, le fils de matin, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il est célébré avant le lever du jour. C'est un peu fatigant. Alors, l'hiver, finalement, c'est plus reposant, les jours sont très courts. mais Mais les paysans, je sais pas, il y a certainement chez vous des gens qui ont de la famille rurale à une génération ou deux générations pas si loin, mais il y a des paysans qui fonctionnaient comme ça, qui n'ont jamais... Il n'y avait pas d'électricité, souvent. Ben, on dit qu'ils se couchent avec les poules. Ben oui, ils se couchent avec les poules, parce que les poules se couchent justement quand la lumière se retire. Et moi, j'ai été au Mont Athos, je me rappelle d'avoir été au monastère de Dionysiou. C'est une des plus belles expériences de ma vie. Et il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas l'électricité dans ce monastère. Donc, on fonctionnait à l'heure solaire. Mais ça marchait très très bien, ça. Beaucoup de monastères à la Sainte Montagne fonctionnent de cette façon-là, à leur solaire. C'est très bien. Mais cela dit, beaucoup d'entre eux ne restent pas pour l'heure de la prière, ne respectent pas. Ils se lèvent et se couchent devant le soleil, mais ils disent à toute allure, prime, tiers, sexe, machin, ça, ramasser vers midi ou 11h, parce qu'ils doivent aller travailler après ça dans les champs. Bon, ça c'est eux les moines, c'est pas moi, j'ai rien à dire. Hein. Bon. Je trouve ça dommage quand même. Bon, alors, ce que dit également le père Cabrol, et il faut que je m'arrête après, peut-être, oui. On arrive à la fin, oui, dans 3 minutes, il dit donc de bonne heure aussi, on chercha à mettre ses prières en rapport avec la vie du Sauveur et l'histoire évangélique, ce que je disais tout à l'heure. Tierce est l'heure où le Saint-Esprit descendit sur les apôtres, réunis dans le cénacle. Sexte, alors il dit sexte, c'est l'heure de la trahison de Judas. Non, l'heure de la mort. Mais Paul Zakimov, qu'est-ce qu'il disait pour sexte? Il disait un petit peu différemment. Oui.
La crucifixion.
Ah oui, non, c'était oui, Monseigneur Duchesne, oui.
Non, c'est la mort.
Voilà donc ce que dit le père Cabrol, et non l'heure de la mort du Seigneur. Alors, ce qu'il faut savoir, puis je conclure là-dessus, c'est qu'en fait, ces offices des petites heures, qui sont principalement des lectures de psaumes, et des lectures, les psaumes sont fixes pour telle heure, prime, sexte, etc. Les psaumes qui sont donnés sont immuables, disons. Sauf peut-être pour certaines fêtes quand c'est les heures royales, donc il y a peut-être des psaumes supplémentaires, je ne sais pas. Mais ceci a varié quand même beaucoup suivant la tradition. Il y a un écrivain, un liturgiste quelqu'un qui écrit, qui fait de la liturgie comparée, qui s'appelle Bamustar, qui est décédé maintenant, qui a écrit un livre là-dessus, justement sur liturgie comparée, et il montre que suivant les différentes églises chrétiennes, la répartition des psaumes a été très très différente. Mais il y a eu par exemple certains monastères où on disait en entier le psaume chaque jour. Extraordinaire. Mais à la tombée de la nuit, c'est-à-dire que des moines, on appelait les fameux monastères les assémètes, et donc ils disaient en entier le psaume chaque jour. Enfin, dans le cycle de la journée, alors une partie était dite dans la journée, et tout le reste était dit la nuit. Mais l'ensemble du psautier était lu sur le temps. D'autres ont réparti. Pas loin de la répartition qu'on a maintenant, qui est donnée à la fin, normalement, elle donne la lecture de psautier intégrale sur la semaine. Bon, un chrétien comme vous et moi, on pourrait lire le psautier intégralement chaque semaine, c'est pas si bête. Mais on n'y arrive pas parce qu'il y a un problème de temps après, si vous voulez. Mais toujours est-il que c'est les heures, que ce soit les heures diurnes ou les heures nocturnes, elles sont principalement en relation avec l'organisation de la lecture du psautier. Alors après ça, il y a aussi ce qui est plus intéressant, c'est que les pères anciens, c'est ce qu'on a actuellement, ont choisi aussi des psaumes pour telle heure du jour. Un psaume qui fait allusion à la mort, un psaume qui fait allusion à la vie, un psaume qui fait allusion au combat spirituel, les psaumes de sexe, c'est très intéressant parce que c'est oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, c'est-à-dire justement le psaume qui est l'expression vraiment même du combat spirituel, ce serait très intéressant. Donc le monachisme a évidemment joué un rôle immense dans l'organisation de tous les offices de l'Église, mais particulièrement des offices des heures. Alors, et donc, ce qui est également important dans chacune de ces petites heures ou grandes heures, c'est qu'elles ont toutes la même forme, c'est-à-dire une partie principalement psalmique, et après ça, des prières, des tropaires. Il y a deux choses, il y a les tropaires qui sont généralement l'expression de l'heure à laquelle on se trouve, le sixième jour à la sixième heure, par exemple, voilà, il est question de la mort du Christ, bon, ou le trompeur qui va indiquer que, pour Nonne, que c'est le moment de la mort du Christ, ou le trompeur, le trompeur indique l'heure, et puis chacune des heures de la journée a une prière. Par exemple, je dis juste celle de prime, je dis un petit bout, Christ, lumière véritable, toi qui illumines et sanctifies tout homme venant en ce monde, que la lumière de ta face nous marque de son empreinte, afin qu'en elle nous voyons ta lumière inaccessible, et dirige nos pas vers l'accomplissement de tes commandements par l'intercession de ta mère toute immaculée et de tous tes saints. Amen. Donc, vous voyez, il y a aussi une prière. Chaque fois, donc, il y a les psaumes, les tropères et une prière composée, qui incite, là, disons, au comportement et à une dynamique, une manière de vivre aussi. Voilà. Et chaque fois, tous les offices commencent de la même façon, par les prières initiales, et terminent par les prières finales, sauf s'ils sont soudés à un autre. À ce moment-là, on omet les prières initiales. Bon. Mais moi, je suppose qu'on ne les soude pas et qu'on les célèbre en omelette. Je me rappelle avoir fait comme l'expérience dans un monastère de Sicastria, non, le Tchernica en Roumanie, et où j'avais vu comment les moines disaient les heures. C'était drôlement bien parce qu'ils se succédaient dans l'église. Ils n'étaient pas très nombreux parce qu'il y en avait qui étaient sur les tracteurs, dans les champs, en train de travailler. Il y a toujours trois ou quatre garçons qui étaient dans l'église à l'heure qu'il fallait, puis ça durait pas très longtemps, ces petites heures, ils retournaient travailler, mais après ça, il y en avait un autre. Donc effectivement, l'église était ouverte toute la journée, et les différentes heures diurnes étaient lues ou chantées à peu près au moment prescrit, et ça donnait un rythme, même si tout le monde n'était pas là, mais ceux qui étaient au chant, ils savaient que leur frère était à l'église en train de dire l'office, et puis la semaine d'après, c'était peut-être une autre organisation. Donc c'est assez important. Et nous qui vivons dans le monde, nous pouvons faire l'expérience de ça. Profiter, moi je vous le dis, je m'arrête là-dessus, profiter des vacances par exemple. Des vacances pour dire, tiens, on va faire un essai, on va essayer de prier, de dire toutes les plaisirs du jour par exemple. On a les livres d'heures, le petit horloge de Père Placide, bon, on va essayer de faire ça, on va dire prime, tierce, sexte, nonne, pour voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on ressent quand on le fait. Et voilà. Hop. Merci beaucoup.